Le best-of avec Samad.
Un très très beau CV. Alors on va pas citer tout parce que sinon ça va nous prendre une heure. Mais Mashallah, lui, il a vraiment vécu une vie très pleine. Il la vit encore pleinement. Alhamdoulilah, alors il a commencé par le lycée, l'université des sciences juridiques et économiques. Il est originaire de Salé. Il a fait l'IGR Rabat, l'Institut supérieur de génie appliqué. Il a même fait une formation en aviation steward. Voilà, il a appris l'espagnol. Voilà. Et par la suite, il s'est dirigé vers l'Ukraine. Voilà, vers l'Ukraine, où il a étudié donc à l'Université d'économie de Kiev, la langue russe et la langue ukrainienne. Il a eu son bac plus 4 en management, finance, marketing et gestion bancaire. Voilà, l'Université d'économie et management de Kharkov. Voilà, Kharkov. De l'Ukraine. Et par la suite, il est devenu fitness trainer, voilà, certifié. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'il a fini aussi par virer vers le modeling, vers le mannequinat. Il a eu une très, très, très belle carrière de mannequin à l'international, que ce soit à Kiev ou dans d'autres pays. Et puis là, il s'est dit, pourquoi pas, on va s'essayer aussi à l'acting, puisqu'il est en train de prendre des cours justement à l'acting. Dans le studio, il a aussi des projets à venir justement sur la télévision marocaine. Donc énormément de points à voir avec notre invité. Alors il se fait appeler Sam, mais son nom c'est Issam. Issam Bartal. Merhaba bik mana Issam.
Merhaba bik. Shukran bzaf ya rous al istidafa.
Qul lina merhaba bik bil Ukrania.
Dobre pozhalovat.
Si.
Feyrouz.
Feyrouz. Voilà. On va apprendre aussi avec lui, hein. On va en profiter de sa présence. Ça nous fait hyper plaisir, d'autant plus qu'avec tout ça, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très, d'avoir les pieds sur terre, très, très mazen, très Charles Parklec.
Et modeste. Il faut être toujours modeste.
Voilà. Et apparemment, tu as toujours voulu être des nôtres à la chaîne Inter.
Oui, je voulais toujours passer
C'est vrai?
par la radio parce que c'était toujours un rêve dès le début. Moi, mon premier rêve, c'était d'être un journaliste.
C'est vrai.
Oui.
C'était vers quel âge?
C'était quand j'avais 8 ans, je crois.
Ok. Tu écoutais qui? Je coulais inspiré à cette époque.
J'avais des amis qui travaillaient, enfin des amis fléchoma qui travaillaient dans la
Ok.
chaîne. Et quand qui a le truc الاولى
آه
التلفازه
دوك
والاذاعه
الشارات
كانت عندها لهيبه
فوالا
وكانت كتعجبني ومنين بديت كنقرا عرفت راسي بلي انا شوي بوكو ليتيرير والماط ما عنديش معاه
فوالا Mais il faut pas être matheux forcément. Une que ça donne plutôt le côté technique. Voilà.
Technique, voilà.
Bah, tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est voilà, transdiffusion, transmission,
Oui. Tout ce qui est
etc.
littéraire.
Voilà. En tout cas, moi aussi, hein, j'adore la littérature. On raconte économie aussi. Mais bon, c'est vrai que la radio, c'était une passion depuis petite. Alors, je n'ai pas cité autre chose. Il faut pas l'oublier. Alors, en 2012, tu as été. T'es élu élite Madelouk aux Netherlands. Voilà.
C'était accidentel.
Voilà.
كنت في عطلة عند
OK.
خالتي
صوت là.
في
دارولك داكشي
عطلة
ديال
بحال
هانتين.
هكا خرج مع
Voilà.
ولد خالتي
بحال نومي كامبل.
فوالا إلي تورك غير جالسين في الزنقة جا عندي واحد قال لي في بلونجلي واش بغيتي دير المانكينة قلت ليه شنو هو المانكينة ما عارف والو ديك
خويا حنا
الساعة
كيجيو هنا كيقول لها شحال الساعة. On va se focaliser sur le côté mannequin.
Oui.
Est-ce que qu'est-ce que tu me fixes sera justement que tu avais des prédispositions à un acte de
Oui, oui, mais non. Oui,
Oui, et oui.
des propositions, le problème, moi, je ne vois pas problème. Le Walid Dili est contre tout ce qui est mannequin, tout ce qui
Je
est
suis
fou.
Mohafed.
Mohafed, quand on va ندير قرايه
Oui,
enfin,
on comprend,
académique,
on
plus ou
comprend.
moins. Donc, داكشي كنت ناسي انا كنت كنعرف حاجه وحده ملي كنت صغير هي القرايه قرايه
كنتي قراي
كنت قراي و ميم طون ما كنتش كنحمل بزاف القرايه
فوالا ما كنتي عاطي فيها
عاطي فيها وجيت اوبليجي او ميم
فوالا
طون
اون ميم طون با وي اي سي فري لي بارون يو فول توجور افوار هاد لو سيكوريتي نت كيف ما كنقولوا بور لور زانفون الوغ قبل ما نهضروا على المانكينه يا اوسي هاد لا بيريود فاش مشيتي لكييف جوستومون اون اوكرين الوغ راكونت نو كيسكي تا بوسي جوستومون ا بروندر لو غران با في تا كارييير او ديبي بروفيسيونيل اي ستوديونتين
كنت ديجا كنت خديت الليسونس ديالي في المغرب في ليجيا في الرباط وموراها بحال دخلت في واحد الدوامه ديال راه كتعرفي ديك الدوامه ملي كتخرج كتشد ديبلوم كتبغي تخدم وما كتلقاش خدمه كتدخل في واحد شي ديبرسيون وهكا من بعد اش غندير بديت كندير لافياسيون اي تو مي كنت قلت بغيت نبدل الجو بغيت نمشي لشي بلاد واحده اخرى جي بوستولي بور لا روسي او ديبار تقربت ديت لا بروسيدور وكنت صافي هذاك العام غنمشي نقرا في لا روسي حتى كانت عندي اون امي كتقرا ديجا في لوكرين قالت لي راه لوكرين بروسيدور ديالها تري فاسيل
قبل ما نهيو كان داير الجميع انهم ديجا باش يكتشفوك اكثر ويترقبوا الجديد ديالك تو اون باج سور انستغرام ياك
وي
اللي هي
سام بارتال واحد
واحد ملاصق فيها
وي
دونك سام بارتال واحد اي اون بو ديكوفرير تي شوتينغ اون بو فوار سكو تو في اون بو فوار اوسي تون افونسمون في هادشي ديال لاكتينغ اي اون بو فوار اوسي هاد لاكتواليتي
فوالا
اللي جايه في
ان شاء الله غيكونوا بزاف
ان
ديال
شاء
البروجي
الله
ان شاء الله
اي
ونتمنوا
بور
الخير
انتري
لكلشي
ان شاء الله هادشي اللي بغينا
لو بيست اوف افيك سامات
C'est l'écoute de la chaîne Inter. Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième édition de la semaine de tendance et influence. Un plaisir de vous retrouver et un plaisir, comme d'habitude, de vous faire découvrir le profil d'exception de ce mercredi. Très riche, très honorable parcours et beaucoup de choses à partager autour de son domaine d'expertise qui est l'archi. Pour les intimes, l'architecture, bien sûr, pour le commun des mortels. Mais avant d'en venir à notre invité, permettez-moi d'accueillir et de remercier mon ami et collègue Siam Mounaïm Ghennouni. Danish qui nous accompagnera au volet technique et moi-même au micro Férouz Montalb. Alors, justement, parlons de notre invité. Alors, il est né à Rabat en 1992. Il est parti faire ses études à Paris, à l'école spéciale d'architecture à 18 ans, en 2011, où il a été donc lauréat avec le meilleur diplôme de cette école en 2018. Par la suite, il a intégré une agence internationale où il a eu la chance de dessiner des hôtels un petit peu partout dans le monde, à Lula, c'est ça, voilà, à Crans, Montana, en Chine également, et même à Oman. Et en 2020, il décide de créer son propre studio au travers duquel il réalise des petits projets de rénovation d'appartements à Paris. Et ce sont les gens au Maroc qui ont commencé un petit peu à voir ses réalisations et qui l'ont contacté pour des plus grands projets ici au Maroc. Et c'est là où il a décidé de créer son studio à Rabat en 2021. Et depuis, il a réalisé pas mal de projets privés, que ce soit des cliniques, des villas, des appartements ou encore des restaurants. Comme je l'ai dit, très très honorable parcours depuis qu'il a débuté justement ses études jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est avec lui qu'on verra, Inch'Allah, les tenants et les aboutissants de ce très très beau métier qui regroupe pas mal de skills hard comme soft. Il s'agit de Soufiane Doukali. Merhaba big mana Soufiane.
Salut Férouz, merci de me recevoir chez toi ici dans la radio, et c'est un plaisir de pouvoir exposer mon début de parcours et mon début de carrière, on va dire ça.
Exact, et pas que le début, on va aller aussi au milieu et vers la fin, Inch'Allah, enfin, façon de parler, mais Inch'Allah, tes ambitions pour le futur. Alors, first thing first, on va commencer par le début. Alors, quel a été ta leitmotiv vers les études d'architecture? Est-ce que ça a été un parcours tout tracé? Est-ce que ça a été inspiré par un proche qui a été dans le milieu? Ou, je ne sais pas, par une bâtisse que tu aurais vue petit, enfant ou jeune, et qui t'a fait te dire j'aimerais bien moi aussi créer ce genre de choses.
Alors ça a été fait en trois étapes, on va dire. La première étape, c'est que j'étais très mauvais en cours au lycée. Donc j'avais toujours un manque de concentration parce que mon esprit allait toujours ailleurs.
C'est-à-dire donc t'étais créatif.
En fait, j'étais, on va pas dire créatif, mais j'imaginais toujours des scénarios, j'imaginais toujours des scènes, etc. Donc j'adorais le cinéma. Moi, mes mercredis après-midi et mes samedis, je regardais toujours le cinéma. Donc moi, j'adore Al Pacino, j'adore Robert De Niro. Et je me suis toujours inspiré, si tu veux, des décors de films pour pouvoir m'imaginer des choses. J'ai toujours rêvé aussi de visiter les États-Unis quand j'étais jeune. Donc voilà, donc je me disais, il y a des belles choses à voir. Donc moi, c'était plus par rapport aux belles choses. À chaque fois, j'ai toujours été intéressé.
Mais c'était surtout le scenery, quand même.
Ouais, et l'esthétique. Voilà. Et l'esthétique. Voilà. C'était l'esthétique tout d'abord. Et puis après, ma deuxième révélation, c'est qu'on avait un voisin. Bon, moi, mes parents ne sont pas du tout archi, ils n'ont rien à voir avec ce métier-là, ni quoi que ce soit, mais on avait un voisin qui était architecte qui, non pas par son métier m'inspirait, mais qui m'inspirait par sa façon d'être.
Sa dégaine.
Sa dégaine, voilà. C'était sa dégaine, c'était son rythme de vie. Je le voyais sortir à 5h du matin. Je me disais qu'il avait des journées bien chargées. Et bon, aujourd'hui, on a un projet en commun avec lui, donc ça, c'est cool. Comme quoi, dans la vie, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et la troisième chose, c'est quand un jour, j'ai commencé à m'intéresser à architecture vers 16-17 ans et que j'ai vu une maison de Frank Lloyd Wright, c'est un ancien architecte des années 30, c'est la Falling Water, et en fait j'ai passé la journée à voir cette maison parce que déjà je trouvais qu'esthétiquement c'était quelque chose d'incroyable, mais ce qui était aussi assez impressionnant, c'était comment cette maison a été faite, donc la structure, comment elle reposait, comment les lumières sortaient de cette maison, et en fait je suis passé juste du côté esthétique de c'est beau à comment c'est fait, voilà. Et donc ce qui était très intéressant pour moi, c'est de voir comment cette maison était faite. Et j'ai vraiment passé une journée, c'était à l'époque de Google Images. Bon, je ne suis pas si vieux, mais bon, c'était à l'époque de Google Images. Voilà. Où j'ai passé une journée à voir vraiment cette maison.
À décortiquer.
Tous les angles. Et je ne comprenais pas comment c'était. Et je voyais le plan, je ne comprenais rien. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien tenter.
Et c'est de là où tout a commencé, où tu t'es dit, voilà, je vais suivre cette route, cette voie qui va me permettre, moi aussi, de comprendre les tenants et aboutissants, le fonctionnement.
Et en terminale, je voulais faire que ça. Donc voilà, j'avais postulé aussi à des écoles de commerce, etc. Mais bon, ça ne m'intéressait pas trop. J'ai un grand sens commercial parce que je vais t'expliquer, enfin, on va essayer d'expliquer que ce métier sans commercial, bon, on a beau bien dessiner, etc. On a une grosse partie commerciale aussi. Mais voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie d'être architecte. J'idéalisais un peu trop ce métier aussi. avant de rentrer dans les études. Voilà, moi j'adorais l'esthétique, comme je t'ai dit. Je suis quelqu'un qui adore.
Tu pensais que c'était surtout le côté créatif. Or,
voilà, c'est ça.
Ça ne tenait pas qu'à cela.
Qu'à ça, exactement. Qu'à cela. Voilà. Donc j'ai commencé par ça, et puis après je suis rentré à l'école, l'école spéciale d'architecture que tu as citée tout à l'heure.
À Paris.
Justement. À Paris, ouais. Alors, c'est boulevard Raspail, c'est devant la fondation, la fondation Cartier.
Très bien.
C'est une école qui fait partie des conférences des grandes écoles.
Ce qu'on Donc le NEC plus ultra.
Exactement. Très et c'est une école qui était sur concours. Donc c'était pas une école qui était sur dossier.
Voilà.
Et donc on était à l'époque 600 postulants ou 500 postulants et on était juste 70 ou 80 à être pris. Donc voilà. Ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que j'ai raté deux fois le concours de cette école.
Ok.
Voilà.
Donc tenace.
J'ai raté deux fois et après j'avais fait du commerce un peu pendant six mois parce que j'avais rien à faire. Et j'ai retenté une troisième fois, mais en me disant. On y allait pour le kiff et puis quand on y allait pour le kiff, ça fait, c'est passé cette fois-ci. Donc voilà. Donc, mais après, quand je suis rentré, bon, j'ai surperformé là-bas parce que j'avais tellement envie de faire archi et pendant une année, j'avais mangé un peu des cailloux, tu vois ce que je veux te dire. Donc,
donc tu avais la niaque, on va dire, beaucoup plus qu'au début.
Exactement. Et cette école, juste pour revenir à cette école, à l'époque, elle était dirigée par une grande architecte qui s'appelle Odile Deck. C'est une architecte qui est gothique, qui a un style tout noir.
Manoir.
Exactement.
Okay,
et qui fait que des bâtiments en rouge et noir, qui a fait des musées à Rome, etc. Et on avait la chance, à l'époque, qu'elle nous ramène des grands professeurs qui n'étaient pas vraiment des professeurs, qui étaient des pratiquants. C'est-à-dire qu'eux avaient des grosses agences, mais ils venaient juste donner cours les samedis matin et les vendredis après-midi. Et donc, c'était pas du tout un système d'école, tu vois, après en parler, mais c'était un système d'atelier. Ça veut dire que on était là avec des grands profs.
Vous étiez très proche du côté plus pratique, enfin théorique bien évidemment, mais aussi le pratique était là.
Le pratique était là, voilà, exactement.
Et c'est très important pour quelqu'un qui va dessiner, qui va concevoir des bâtisses. Alors, par la suite, quand tu as fait tes études, quand tu as côtoyé ces grands, quand tu as aussi approfondi tes connaissances en la matière, et par la suite, quand tu as commencé bien sûr à travailler pour ton compte, maintenant, quelle est ta propre définition ? Parce qu'on a tellement, mais quelle est ta propre définition de ce métier-là ? Et tu peux me donner, que ce soit une citation, une métaphore, a quote, pour décrire le métier d'architecte.
Alors, je vais te donner deux citations. Alors, un bon architecte, c'est un architecte qui vit de son métier, déjà. Donc ça, c'est un bon architecte parce qu'aujourd'hui, les architectes ont un peu du mal à trouver du boulot. Voilà, moi, ce n'est pas mon cas aujourd'hui parce que j'ai de la chance d'avoir commencé assez tôt, etc.
Exact.
Mais aujourd'hui, on voit que ce métier, il est un peu en perdition parce qu'il y a tellement de corps de métier, tellement, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, mais tellement de parasites autour de ce métier. Je n'ai pas envie d'arnaqueurs, mais de parasites autour de ce métier qui s'approprient ce métier, mais qui ne sont pas vraiment sachants, on va dire. Et la deuxième citation que j'ai envie de te donner, c'est une citation de Tadaondo qui dit que le meilleur projet est un projet qui voit le jour. Voilà. Parce que des fois, on fait des esquisses, des fois, on fait des plans, des fois, on fait des propositions. Et la temporalité entre le début de notre projet et la fin, qui est donc le rendu des clés, elle est très, très, très pénible.
C'est comme pour un roman.
C'est comme un pour
des
un
fois,
roman.
Ça reste que des esquisses.
Exactement. Des fois, on reste juste à l'étape du
Alors, contrat. À quoi ça tient, finalement ? À de la persévérance, de la ténacité ou justement ce côté commercial, comme tu viens de dire ?
Voilà. Moi, je pense qu'il y a un gros côté commercial. Alors moi, si je peux te parler juste d'une anecdote.
Oui, bien sûr.
Sans vouloir citer de nom ni quoi que ce soit. En 12 ans de carrière, j'avais une collègue à moi à l'école spéciale. J'ai travaillé dans les grandes agences, comme tu as dit tout à l'heure. J'ai mon cabinet, donc je travaille avec d'autres architectes ici au Maroc. Mais j'avais une collègue à moi, j'ai jamais vu un talent aussi brut et aussi incroyable que ce que j'avais vu à l'école. Et même si j'avais travaillé dans des agences qui faisaient des hôtels partout dans le monde, il y avait des gros calibres, mais j'avais jamais vu un talent comme ça. Mais en fait, on se rend compte que le talent, c'est pas ce qui est le plus important dans ce métier. Il faut une partie de talent, mais si on n'a pas du commercial, si on n'a pas du savoir-faire, si on n'a pas du savoir-dire aussi, parce que c'est un métier où voilà, on a une dégaine, comme je l'ai dit, c'est un métier qui est beaucoup sur ton image aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils choisissent un architecte, c'est pas juste ils choisissent quelqu'un qui sait faire des dessins. Ils choisissent quelqu'un avec qui ils veulent être accompagnés pendant un an, avec qui ils veulent parler pendant un an. Et ça, je pense que les architectes à l'époque qui se pensaient des artistes et qui avaient le boulard, on va dire ça comme ça, de se croire des artistes. Aujourd'hui,
artistes maudits. Sauf que là, ça marche pas.
Non, ça marche pas.
C'est pour le baroque, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ils sont tous morts avant d'être connus aussi.
Exactement.
Entre parenthèses.
Exactement, entre parenthèses. Donc, moi, j'ai une autre approche. J'essaie vraiment d'être toujours proche du contexte. Comme je dis à chaque fois, c'est du contexte économique, du contexte social, du contexte climatique et du contexte culturel. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand un client m'approche, je prends son contexte à lui, on essaie de travailler son contexte.
Très bien.
Et je pense que c'est ça qui me fait qui nous fait rentrer un peu des projets à l'agence, c'est parce qu'on essaie toujours de s'adapter. On est toujours dans l'adaptation. Bon, des fois, ça nous peine. Il n'y a même pas 3-4 jours. Bon, j'ai essayé de m'adapter un peu trop avec un couple et puis voilà, bon, le projet n'est pas passé. Bon, après, ça fait partie du truc. Mais sur un projet, on en a 9 qui passent comme ça et qui passent même très bien. Donc
très
voilà.
Bien. Alors, justement, est-ce qu'il faut une qualité ou des qualités particulières ? Parce qu'il y a les hard skills, bien sûr, il faut un minimum, savoir dessiner, etc. Mais est-ce qu'il faut aussi avoir des soft skills nécessaires, justement, en termes, je ne sais pas moi, d'esthétique, de doigté, je ne sais pas, pour non seulement pratiquer, mais aussi avoir cette petite touche qui fait toute la différence, finalement.
Alors, je pense qu'il faut être très curieux. Je pense qu'il faut vraiment être curieux. Quand je dis curieux, ce n'est pas forcément voir tous les détails tout le temps et s'attarder sur les détails, mais il faut s'intéresser à ce qui n'est pas évident. Voilà.
Par exemple.
Par exemple, on va dans une autre ville, on sort des sentiers battus. Ça veut dire qu'on va voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça ne veut pas dire que cette chose-là, on va tout utiliser dedans, mais on peut prendre par exemple une chose dedans qui est bien, qui est réutilisable et de l'incorporer dans un des projets. Je pense qu'il faut toujours se renouveler parce que les gens ne sont pas dupes. Les gens, quand ils voient qu'on fait un projet qui marche bien et qu'on le répète quelque part, ils ne veulent pas forcément avoir du copier-coller
partout. Surtout maintenant avec Internet, on est au courant de tout ce qui se passe.
Donc,
un petit peu.
En fait, il faut toujours essayer de travailler. Maintenant, les gens sont beaucoup sur Pinterest, sur Internet. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller maintenant acheter, aller chez le bouquiniste, aller acheter des livres de l'époque. Il y en a qui sont un peu chers, qui sont à 200, 300 dirhams, mais où on a des idées qu'il n'y a pas sur Pinterest parce que c'est des choses qui ne sont pas archivées, c'est des choses qui ne sont pas sur les sites internet. Et voilà, moi je pourrais te citer des exemples de livres qu'on a à l'agence aujourd'hui. On a un livre d'André Paccard, c'était le, c'était le décorateur qui faisait les palais à l'époque, dans les années 80. C'est celui qui a fait la Mamounia, la première rénovation.
On va pas citer le nom de grand hôtel.
D'un grand hôtel à Marrakech, on va dire d'un grand palace à Marrakech. Et c'était un des premiers décorateurs. Et aujourd'hui, sa bibliographie n'est pas du tout sur internet.
Ce qui est dommage.
Ce qui est dommage, mais il a des livres aujourd'hui qui sont très rares, mais qu'on peut trouver avec un peu de peine, où on peut chercher.
Alors justement, c'était ma prochaine question. D'où est-ce que tu puises ? Parce que c'est vrai qu'il y a des commandes, c'est vrai qu'il y a des couples, des gens qui veulent avoir, qui ont une idée bien précise, un plan bien précis, un genre bien précis de bâtisse qu'ils veulent pour leur, donc leur projet. Mais d'où est-ce que tu puises généralement ton inspiration ?
Alors, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire qu'on a un style à l'agence, qu'on essaye toujours de respecter. On a des déviantes, on va dire comme ça, j'ai pas toujours un nouveau style. J'ai toujours mon style que j'essaie de réadapter par rapport à la demande, par rapport à le budget et par rapport au contexte, comme je t'ai dit, climatique, s'il y a trop de soleil, s'il y a peu de soleil, si on est à Marrakech, si on est à Rabat, si on est à Tanger, à Agadir.
Et là, on parle vraiment de matières premières.
De matières premières. De tout. J'ai des matériaux. Donc, je travaille beaucoup avec des showrooms qui me proposent des matériaux. Donc, je travaille toujours avec des nouveaux matériaux qui arrivent. Là, aujourd'hui, on a des murs 3D qui sont, je trouve, absolument sublimes. Ce que j'avais pas il y a 2 ans. Donc, c'est des choses que je réutilise. Il y a du parquet. Là, dernièrement, j'ai été invité par une famille italienne, bon, je ne vais pas citer la marque, mais par une famille italienne à visiter leur usine de parquet en Italie. On a fait un voyage de 3 jours à côté de Rome où on nous a montré de la forêt jusqu'à l'usine, jusqu'au showroom, comment le parquet se transforme. Donc, nous, c'est
tout le process.
Donc, nous, c'est très intéressant pour nous parce que, en fait, quand on vient poser un sol, on sait très bien comment on va travailler ce sol. On sait très bien parce qu'on a vu juste avant. Je pense que c'est un métier où il faut beaucoup voyager aussi. Faut avoir les moyens de voyager. Mais quand je dis voyager, ça peut être de différentes manières, comme je t'ai dit. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, je voyageais avec Miami Vice. Moi, c'était avec Miami Vice.
C'était avec
Don Johnson, avec le Miami des années 80, avec les belles villas toutes blanches, avec les gros.
On parle de la série.
De la série. Donc, moi, c'était
les costards.
Les costards blancs, tu vois.
Les voitures sans citer de marque, mais on connaît les blanches.
Les voitures blanches, exactement. Voilà. Moi, c'était ça mon inspiration à la base. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'était vraiment ça. Donc, je voyageais sans voyager en vrai. Tu vois, j'avais pas les moyens d'aller à Miami quand j'avais 15 ans. Mais moi, quand je voyais cette série, c'était pas de mon époque, mais je me disais, putain, c'est vraiment. C'est incroyable parce que je me disais, c'est une autre époque, les baies vitrées blanches.
Mais c'est intemporel.
C'est intemporel.
Mais c'est beau. Mais c'est beau même. Et c'est vrai qu'on a vu un revirement de ce qu'on appelle le vintage maintenant, que ce soit au niveau de l'habit, au niveau aussi de la déco, au niveau même des bâtiments. artiste. Alors avant de se faire une petite pause, je te poserai cette question. Depuis que tu as commencé, pas depuis que tu as commencé, depuis que tu es établi au Maroc, est-ce que tu as vu une tendance, comment changer les tendances? Est-ce qu'elles changent périodiquement, dépendamment de la personne, ou aussi vraiment unique d'une personne à l'autre, ou est-ce qu'il y a une sorte de consortium commun entre tous?
Ouais, alors le dernier point que tu abordes, il est très très intéressant parce que depuis que je suis au Maroc, moi ça fait maintenant 2 ans que je suis au Maroc, je vais dire quelque chose, mais c'est pas du tout péjoratif, hein, faut pas du tout le prendre mal, mais on se copie tous les uns les autres. Et moi je trouve ça plutôt pas mal parce que en fait on voit ce qui est fait, par exemple moi le premier, je vois par exemple mes collègues qui sont à Casa, qui font des très belles choses, je vois ce qu'ils font, je vois que ça marche bien, et on essaye de réintégrer ça mais à notre sauce, comme je t'ai dit, avec notre style, parce qu'on sait que ça marche bien avec notre contexte et tout. Le Maroc, ce qui est top de chez top, c'est qu'on est un pays de recherche, là où en France on est un pays d'histoire, c'est-à-dire qu'on vient, on a une histoire qui est déjà préétabli, on fait avec cette histoire-là, on fait avec cette lourdeur-là, parce que vraiment il y a une histoire qui est lourde, il y a une culture qui est lourde, mais au Maroc, on est toujours dans la recherche, dans la remise en question, quand on fait par exemple quelque chose, on va le remettre en question 2-3 fois, parce que déjà on n'a pas confiance, et parce que déjà on... Et donc ce qui est top, c'est que on s'inspire tous les uns des autres.
On n'est pas farouche.
Non, on n'est pas farouche, on s'inspire tous les uns des autres, et je pense que ce qui est incroyable de ce que j'ai vu ici, c'est qu'on n'a pas forcément des bonnes et des mauvaises réponses. On a juste nos réponses à nous qui sont juste propres.
On s'est approprié. Et on peut le voir d'ailleurs dans les nouvelles bâtisses, justement, que ce soit des cliniques, que ce soit, je ne sais pas moi, des maisons, des appartements, etc. Donc on reste ensemble, toujours.
Bien sûr.
Avec Sofiane Doukele, notre invitée. On va se faire une petite pause musicale et se retrouver pour la deuxième et dernière partie sur Tendance et Influence. Your girls left, but you said you wanna stay. So you step to the right, acting real shy, cause you gave your heart away. Then you take it on back, feelings on track, cause you don't know what to say. Come on, move it in close, let everyone know how you feeling, baby. No. Bah voilà, je la dédie à notre invité qui a adoré. Bah, ça s'appelle « Leave it on the dance floor » par Hope Tala. C'est une nouvelle venue sur scène. Voilà. Donc, c'est sympathique, c'est nouveau, c'est frais. Et on adore voilà, mixer entre le oldies et le frais sur Génataire. Et surtout sur Tendance et Influence. Et ça repart de plus belle avec notre invité Sofiane Doukali. Ça va toujours, Sofiane?
Ça va très bien, je suis très très bien ici.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et puis je pense quand on parle de quelque chose qui nous passionne, on est toujours bien.
J'espère que c'est passionnant d'écouter un passionné.
Bah oui, que ce soit des gens qui sont passionnés ou des gens qui veulent tout simplement découvrir aussi justement les tenants et les aboutissants de ce domaine très très passionnant et qui touche voilà, à tous les aspects de notre vie, que ce soit au niveau visuel ou au niveau justement de notre habitation ou quoi que ce soit. Alors justement, parlons de bâtisse. Alors on va pas citer de voilà, mais est-ce qu'il y aurait une œuvre, une bâtisse qui aurait représenté pour toi un très très grand challenge ou, mais c'est dans la même veine, ta plus grande fierté, on va dire?
Oui, je vais en citer deux à deux échelles différentes.
Ok.
Donc, j'ai travaillé sur un hôtel en Suisse, je ne citerai pas le nom.
En Suisse?
En Suisse, ouais, à Grand-Montanant.
Ah, très
où,
bien.
Où voilà, j'étais tout jeune et voilà, j'avais commencé mon début de carrière dessus. C'était un hôtel de 14 étages qui était sur la montagne à Grand-Montana et j'étais juste assistant de projet.
Okay.
Et donc j'avais découvert des plans qui étaient énormes, j'avais jamais vu ça de ma vie et c'était vraiment incroyable de pouvoir participer à ce projet qui est aujourd'hui construit. Et j'en ai un autre, c'est dans mon début de carrière, j'ai un ami à moi qui m'a confié un appartement avenue Foch qui fait 40 mètres carrés, donc tu vois, c'est tout petit. Mais pour moi, tu vois, jeune Marocain qui était à Paris et j'avais 26 ans et je me disais, tu sais, si il y a 10 ans tu me disais que tu allais faire un truc avenue Foch, je me disais franchement, c'est top de chez top. Et puis il y a aussi un petit projet à Marbella aussi que j'ai fait juste pour l'histoire, parce que bon, j'adore aussi, comme je t'ai dit, voyager, etc. Et bon, mon premier projet au Maroc aussi qui était vraiment très très touchant et très peu émotionnel pour moi, quoi. Voilà.
Donc tu te donnes toujours à fond quel que soit le projet?
Oui, je suis obligé, parce qu'en fait on a une image, comme je t'ai dit, et cette image là moi je tiens à la garder dans mon agence, c'est à dire que moi en fait quand on vient me voir, on vient me voir parce qu'on veut bosser avec moi, c'est pas parce que je suis juste un architecte.
Exact. C'est une signature voilà qu'ils choisissent avant toute chose.
Voilà, c'est une signature. Et puis même les gens, moi j'ai toujours un peu de fierté, en toute modestie, à entendre des gens dans les salons dire ben, on a travaillé avec Sofiane, c'est lui qui nous a fait notre maison, c'est notre chez nous, mais c'est Sofiane qui a fait. Et franchement, tu vois, et ça, moi, je laisserai pour rien au monde. Des fois, je suis même prêt à baisser mes honoraires et tout, si je sais qu'un projet, bah, il va m'apporter vraiment, tu vois, du bienfait, on va dire, socialement parlant.
Notoriété. Et c'est là le côté pragmatique aussi de Sofiane Doukali, justement. Exactement. Alors, c'est vrai que tu étais en France et les Marocains ont entendu parler de ce que tu fais, on t'apprécie, on te commandité de plus en plus de choses. Et c'est là où tu as décidé d'établir voilà, ton studio ici au Maroc. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes architectes qui sont en train justement soit de commencer leur parcours, de faire leurs études ou de s'établir, qui hésitent encore à entrer au Maroc? Est-ce que tu dans cette réponse, tu peux être soit subjectif, soit objectif?
Écoute, je vais être les deux.
Voilà, très bien.
Donc subjectif, c'est que ça reste notre pays. Il faut essayer de le développer. Il faut essayer de se battre pour essayer d'apporter la compétence qu'on a eue là-bas pour l'injecter ici. Je trouve qu'il y a des gens qui sont quand même extraordinaires ici. Moi, mes équipes, par exemple, voilà, je leur touche un petit mot parce que sûrement ils m'écoutent aujourd'hui. On est 5 ou 6 à l'agence. Des fois, ils font des nuits blanches avec moi. Des fois, je les mets sur des sujets de dernière minute. Mais les pauvres, ils savent même pas de quoi ça parle. Mais ils sont obligés de me rendre des trucs... midi jusqu'à 17h. Et je trouve qu'il y a vraiment une flexibilité au Maroc ici qu'il n'y a pas du tout en France. Et si on vient avec une vraie compétence qu'on a acquis à l'étranger avec nos études et avec des expériences pro, n'importe le domaine, je pense qu'il faut venir et se battre ici dans le pays où c'est un pays qui est vraiment en développement. Il faut dire la vérité. Moi, je parle à un collègue à moi tous les jours, un confrère, c'est pas un collègue, c'est un confrère à moi avec qui on parle tous les jours, qui est rentré en même temps que moi, et on se dit toujours en fait, il y a énormément de boulot ici et il y a des problèmes. Alors nos honoraires sont pas comme on le veut. Les entreprises avec lesquelles on travaille, on est obligé de s'adapter, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'échelle des projets, c'est super.
C'est un terrain qui n'est pas qui est en pleine expansion, comme tu as dit, qui n'est pas saturé, on va dire.
Qui n'est pas du tout saturé. Voilà. Et objectivement, voilà. On a un vrai cadre quand on est en Europe. Donc voilà, on a un vrai cadre. On est tout est procédurier. Si on aime la procédure,
tout est carré.
Mm-hmm. On aime. Moi, je suis pas quelqu'un de très procédurier, même si je peux paraître voilà. Mais voilà, tout est procédurier. Tout va dans la procédure. Tout va dans les étapes, on va dire. Une étape, tu es payé. Une étape, le projet est réalisé. Donc ça, les gens qui aiment bien être dans ce confort-là, on va dire que bon, c'est bien, c'est mieux pour eux, l'Europe. Mais ici au Maroc. En fait, une carrière peut se faire en 1 ou 2 ans. Hein. Ça, on va être très clair. En France, pour parler de la France, parce que je ne connais pas les États-Unis, je n'ai pas bossé là-bas ni quoi que ce soit. Je connais juste culturellement, parce que j'aime bien, mais voilà, je ne connais pas. Mais en France, une carrière peut prendre 10 ans parce que tout est procéduré. Donc ici, les jeunes, ce que j'ai à leur dire, c'est rentrer si vous voulez vous faire vite. Voilà. Si vous avez du sérieux, si vous avez de la compétence, si vous avez de la dégaine, ça peut aller très vite pour eux. Voilà, dans tous les domaines. Hein.
Dans tous les domaines. Ouais. Voilà.
Moi, j'accueille dans mon agence, juste deux secondes, j'accueille dans mon agence des jeunes qui font du média, des jeunes qui font aussi de la communication. Des fois, on fait de la sous-traitance un peu sur nos réseaux sociaux et tout, avec des gens qui font un peu de la com, etc. Mais je vois des jeunes qui lâchent rien. Quoi. Des fois, ils nous envoient un devis, ils nous relancent 3-4 jours après. Et on sent qu'ils veulent travailler. Et ça, c'est vraiment incroyable.
Voilà. Voilà. Alors, ma dernière question, mon avant-dernière question va dans ce sens. Alors, quel changement penses-tu qu'il serait quand même nécessaire de faire dans ce domaine de l'architecture au Maroc? Le changement majeur, on va dire, qui changerait au mieux les choses. Alors que ça, est-ce que c'est au niveau de la bureaucratie? Est-ce que c'est au niveau, je ne sais pas, des mentalités, des arriérés, des retards?
Alors, il y a deux changements que j'aurais souhaité. Oui. C'est au niveau de la bureaucratie, j'aurais aimé que ça aille plus vite et que ça soit un peu plus fluide, on va dire. Parce que tout le monde y est perdant, on va dire. Nous, on est perdants, les clients sont perdants. Les gens qui travaillent sous nous, c'est-à-dire les fournisseurs d'aluminium, tout ça, c'est des choses qui prennent de plus en plus de retard. Des fois, je vois des autorisations. Bon, je comprends que des fois, ça peut être lourd et tout. Mais pour des grands projets, je comprends très bien. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, on a des locaux commerciaux, des trucs comme ça. Enfin, j'aurais souhaité que ça aille un peu plus vite parce que des fois, en fait, c'est des business pour des PME. Et des fois, on met en péril un peu des PME parce que les autorisations ne sont pas données. Parce que... voilà. Donc ça, j'aurais souhaité que ça aille un peu plus rapidement. Bon, voilà, maintenant, je pense qu'ils font des efforts. Il y a une nouvelle, plateforme qui est faite qui s'appelle Rojas qui nous facilite un peu la vie aussi. Mais j'aurais souhaité que la bureaucratie soit un peu plus légère avec les PME. Voilà.
Et c'est surtout les PME qui, ne l'oublions pas, officient avec un nombre justement assez important de personnes qui dépendent de cette PME. Exactement. Donc voilà, ce sont des gens, donc ce sont des familles, le fait de les mettre en péril ou en position de vulnérabilité fragilise un peu le tissu social. Oui. Voilà, donc c'est dans ce sens. Alors, la suite. Qu'est-ce que tu ambitionnes par rapport justement à ta société, par rapport à ta présence ici au Maroc, par rapport aussi à ta vision des choses ou encore à quelque chose que tu voudrais créer?
Alors c'est une très très bonne question parce que j'y pense tous les jours. Alors j'aimerais pas faire ce métier jusqu'à mes 80 ans. Voilà, j'aimerais bien arrêter ce métier à 45-50 ans parce qu'il est très chronophage. Je vous ai parlé de la beauté du métier, mais c'est aussi un métier où on court beaucoup après les clients, on a beaucoup de concurrence.
C'est assez éreintant.
Voilà, c'est assez éreintant et puis après on a beaucoup de pression parce qu'il y a quand même du financier derrière. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent de tous les côtés et nous on est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Ce que j'aimerais faire, c'est faire de la transmission par la suite et de créer une école. Voilà, donc c'est une école d'art pour les enfants.
Très bien.
Voilà, donc faire de la peinture, du graphisme, de voir les choses autrement, on va dire. Chacun sa façon de voir, bien évidemment. Pas ma façon, vraiment pas ma façon, mais que les enfants développent leur façon de voir parce que je trouve qu'il y a vraiment un manque ici au Maroc pour développer la curiosité des enfants. Donc j'aimerais vraiment développer une jeune école ou une jeune philosophie, je sais pas comment on pourrait appeler ça, où on a des intervenants qui sont un peu hors cadre.
Une alternative.
Une alternative pour les jeunes qui sont un peu. Pas forcément branchés que sur les maths ou sur la littérature, mais qui ont des éveils autres. J'aimerais bien aussi l'hôtellerie. Moi, j'adore l'hôtellerie. Si j'arrête ce métier, peut-être que je ferai aussi un peu d'hôtellerie. J'aimerais bien développer des concepts d'hôtel, comme ce qui se fait un peu... comme ce que fait David Grootman à Miami. Donc faire des concepts hôtels un peu partout au Maroc. Donc ça, j'aimerais beaucoup faire. Mais c'est dans une deuxième partie de vie, si le bon Dieu nous permet de la vivre.
Inch'Allah. Mais en tout cas, on peut voir tout ça et bien plus sur ta page Instagram. Très, très belle page. D'ailleurs, c'est au travers de laquelle j'ai pu, moi, en tout cas, te découvrir.
Beaucoup.
Alors, c'est l'occasion d'en parler de cette page Instagram. Alors, comment elle s'appelle déjà pour commencer?
Alors, c'est le Studio SD. Architecture-du8 architecture. Voilà. Et donc, dans cette page, vous avez nos projets, vous avez nos moments de vie de l'agence aussi. On essaie de ne pas juste mettre des photos de nos projets. Donc, c'est Studio SD Architecture, comme le nom de ma société. Et donc, dans cette page, on essaie de décrire la vie un peu d'une agence, que ce soit dans le chantier, que ce soit dans la communication, dans les projets.
C'est un peu du storytelling.
C'est du storytelling. Et puis, voilà, nous, on tient vraiment à être sur Instagram aujourd'hui. Bon, parce que ça nous ramène des clients, il faut être tout à fait honnête. Hein. Ouais. Il n'y a pas de honte à le dire.
Du tout.
Voilà. Mais aussi parce que je trouve que ça nous fait garder une trace de comment l'agence évolue. Et je pense que même les clients que j'ai eus il y a maintenant 3 ans, quand ils ont vu leur ancien projet en 2020 et qu'ils voient la page aujourd'hui, je pense que c'est aussi une fierté pour eux de se dire, voilà.
On était là où tout a débuté.
Exactement. Je ne vais pas citer le nom d'une agence, mais une agence dans laquelle je me réfère beaucoup, c'est une agence qui est en Afrique du Sud, qui est gérée par un Sud-Africain et qui est aujourd'hui construit à Los Angeles, qui est construit partout. Et je trouve que c'est vraiment une vraie réussite sud-africaine. Et quand on voit leur début d'agence et aujourd'hui, ne serait-ce que sur leur fil d'actualité, je trouve ça vraiment incroyable et ça nous donne vraiment de l'inspiration et de la motivation à arriver à un point où on peut s'exporter.
Et c'est vrai que l'Afrique, c'est vraiment le berceau. Hein.
Ouais, moi j'étais en Namibie. J'étais en Namibie là il y a 6 mois. Franchement, j'ai déjà fait la Tunisie, mais j'ai fait la Namibie aussi. J'ai fait la Namibie là dernièrement. J'ai été impressionné. Franchement, en fait, tu sais comme je voyage un peu souvent ces derniers temps, bon Dieu merci. Voilà, j'ai plus les frissons. Tu sais quand je vais, par exemple, quand je vais à Londres ou quand je vais à Madrid, etc. Bon, après c'est des villes qui se ressemblent et tout. Mais quand je suis parti en Namibie, c'était l'Afrique. Il y avait un espèce de désert rouge. Tu sais, les couleurs que j'ai vues, je les ai jamais vues de ma
vie.
Et tu sais, en fait, c'est la première fois depuis longtemps, j'ai pas eu les frissons. Et tu sais, je suis resté silencieux devant le truc et tout. Et là, tu te dis, mais vraiment, l'Afrique, c'est un continent qu'on va pas dire sous-estimé, mais c'est un continent que nous, en tant qu'Africains, on voit pas forcément. Et moi, je me suis dit, à partir de ce voyage, j'irai faire de plus en plus de voyages en Afrique.
Et t'inspirer, pourquoi pas?
Bien évidemment.
Pour ce qui est à venir. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de parler avec toi de ce beau métier et de ta propre perspective, surtout.
Merci beaucoup.
Sofiane Dokali, merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi pas réitérer l'expérience, Inch'Allah, dans un avenir proche. Merci,
merci
beaucoup,
à toi. Merci beaucoup, Fayrouz, et top émission.
Merci, thank you.
comme un artiste en enfer, comme un enfant qui se perd. J'étais comme ça devant elle, elle était tellement belle, elle était tellement pour moi, que je ne sais même pas si j'ai vu trembler mes doigts quand elle était là. Prêt à oublier ma peine, prêt à me couper les veines, prêt à refaire la vie, prêt à refaire ma vie, prêt à tuer les démons qui m'empêchent de la revoir, et prêt à crier son nom toute ma vie dans le noir. Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, ou qu'elle m'aime.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Attendre goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller, apprendre à rêver. Rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.